Bonjour à chacun. Selon Socrate, elle est le plus beau bienfait qu'un homme puisse recevoir. Selon Bossuet, elle est la meilleure chose que l'on puisse donner et la meilleure chose que l'on puisse recevoir. Allez, un troisième indice. Selon Jean de La Fontaine, elle est plus que la justice car elle s'unit à l'amour. Comme le disait en son temps un certain Julien Lepers, « Je suis, je suis, je suis. Je suis la miséricorde. » Dans notre série sur les béatitudes de Jésus, dans l'évangile de Matthieu, nous arrivons ce matin à la cinquième béatitude, cinquième sur huit, où Jésus déclare heureux les miséricordieux. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. De quoi est-il question ici? Qu'est-ce que la miséricorde? Quelle est cette corde qui nous relie ou qui me relie à la misère de l'autre? Quelle est cette miséricorde qui est promise à celui qui est miséricordieux? Notons pour finir ce tout petit propos introductif que parler de miséricorde, ce n'est pas difficile. C'est même chose plutôt aisée. Ce qui est difficile, c'est de la vivre. Ce qui est difficile, c'est d'être véritablement miséricordieux dans la durée. Jour après jour, et en particulier dans les situations difficiles, dans les situations qui durent parfois même toute une vie. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Jean écrit dans sa première épître ceci, « Mes enfants, n'aimons pas seulement en parole, avec de beaux discours. » C'est facile les beaux discours. Faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes. Alors, c'est une traduction en français courant. Faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes. Oui, parler de miséricorde, faire de beaux discours sur la miséricorde ou la compassion, c'est facile. Ce qui est plus compliqué, ce qui est exigeant, c'est d'être miséricordieux. Commençons par définir ce qu'est la miséricorde. Le mot grec qui est utilisé ici dans notre béatitude signifie la miséricorde dans son sens de compassion profonde. On pourrait aussi dire de pitié, de bienveillance envers quelqu'un qui souffre ou tout simplement quelqu'un qui est dans le besoin, quel qu'il soit. Et j'entends par besoin quel qu'il soit, pas juste les besoins matériels, les besoins physiques, mais aussi les besoins moraux, les besoins relationnels, les besoins spirituels. Notons déjà ici comme une évidence que le carburant de la véritable compassion, c'est l'amour. En effet, c'est par amour que quelqu'un va accepter de partager quelque chose du besoin de l'autre, de la souffrance de l'autre. Toute autre motivation que l'amour, elles existent, elles ne sont pas toutes mauvaises ou condamnables, mais toute autre motivation que l'amour exclut la véritable miséricorde. Si la motivation est l'amour, la source de la vraie miséricorde, c'est Dieu. La miséricorde, c'est une qualité intrinsèque à la nature divine. C'est sa miséricorde qui amène Dieu à intervenir en faveur de l'humanité. C'est sa miséricorde qui est à la base de l'alliance qu'il a conclue avec le peuple de l'ancienne alliance dans l'Ancien Testament. Ainsi, dans l'Ancien Testament, Dieu est souvent désigné par sa miséricorde. Dans les traductions plus anciennes, on a beaucoup la traduction aussi de compassion. Alors je n'avais que l'embarras du choix. Il y a des dizaines, voire des centaines de versets qu'on pourrait citer ici. Je vous en ai mis juste 4. Le Seigneur, un premier dans le livre de l'Exode, le Seigneur passa devant lui et proclama devant Moïse, qui est sur le Sinaï, « le Seigneur, Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté. » Deutéronome 4, 31, « Car le Seigneur, ton Dieu, est un Dieu miséricordieux. » Il ne te délaissera pas, il ne te détruira pas, il n'oubliera pas l'alliance jurée à tes pères. Psaume 103, le Seigneur accomplit des actes de justice, il fait droit à tous les exploités, il révèle ses chemins à Moïse et aux fils d'Israël, ses hauts faits. Le Seigneur est miséricordieux et bienveillant, lent à la colère et plein de fidélité. Il n'est pas toujours en procès, ne garde pas rancune indéfiniment. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous rend pas selon nos fautes. Et puis encore le verset 5 du psaume 116, « Le Seigneur est bienveillant et juste. Notre Dieu fait miséricorde. Notre Dieu fait miséricorde. » En fait, dans l'Ancien Testament, la miséricorde de Dieu qui est aussi souvent traduit par pitié ou compassion, revient comme un leitmotiv. Oui, Dieu est miséricordieux. Et c'est en Jésus, son Fils, que sa miséricorde s'est pleinement exprimée. Jésus est l'incarnation de la miséricorde de Dieu. Et le summum de la miséricorde de Dieu, c'est la croix. En effet, c'est parce que Dieu a tant aimé le monde, c'est parce qu'il a eu compassion de nous, c'est parce qu'il a été miséricordieux envers nous que Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et comme l'écrit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains au chapitre 5, verset 8, « La mort de Jésus-Christ sur la croix est la preuve de l'amour de Dieu. » Elle est la preuve de la miséricorde de Dieu. Et parce que Dieu est miséricordieux, il désire que nous le soyons aussi. C'est le principe de l'imitation que l'on retrouve plusieurs reprises dans l'Écriture. C'est le principe du tel père, tel fils, que l'on retrouve par exemple dans ce verset de l'Évangile de Luc au chapitre 6, verset 36, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Le principe de l'imitation. Oui, si nous sommes enfants de Dieu, nous devons chercher à ressembler à Dieu, à notre Père céleste. C'est incontournable, c'est indispensable, c'est même la volonté de Dieu pour nous, la volonté de notre Père céleste. Et quand nous sommes miséricordieux, nous lui ressemblons. Et nous ne pouvons être que heureux. Heureux parce que nous sommes ses enfants. Heureux parce que notre vie traduit notre filiation. Heureux parce que nous lui ressemblons, heureux parce que nous faisons partie du royaume des cieux, heureux parce que nous sommes au bénéfice de toutes ses promesses. Que pouvons-nous déduire ? Que pouvons-nous déduire de ce que nous venons de dire ? Nous pouvons déduire que si je veux être miséricordieux, de la miséricorde de Dieu, de celle-là, de la vraie miséricorde. Si je veux être miséricordieux, alors je dois me tourner vers celui qui peut me donner cette miséricorde, pour la recevoir de lui. La miséricorde de Dieu ne peut exister dans ma vie que si Dieu me la donne, que si Dieu me remplit de sa miséricorde. Souvenons-nous ici que c'est premièrement à ses disciples que Jésus s'adresse dans ce sermon sur la montagne. Ce sont les membres de son royaume qui sont concernés par les béatitudes. Ce sont les membres de son royaume qui sont appelés à être miséricordieux. Si les quatre premières béatitudes s'intéressent à l'intérieur du cœur, à l'intérieur de la personne, les quatre dernières béatitudes, dont celle de ce matin, traitent plutôt de la manifestation de ses qualités intérieures. Ainsi, la miséricorde de notre béatitude ne peut exister que sur le terreau des béatitudes qui précèdent. La miséricorde de notre béatitude n'est véritablement possible que si je suis pauvre en esprit, que si je pleure sur mon péché, que si je suis doux, que si j'ai faim et soif de la justice. Parce que finalement, c'est quand l'Esprit de Dieu habite en quelqu'un, c'est parce que l'Esprit de Dieu habite en moi que je peux être miséricordieux. C'est lui et lui seul qui peut me donner la miséricorde, la compassion de Dieu. C'est lui et lui seul par son fruit qui peut faire suffisamment contrepoids dans ma vie, contrepoids à mon égoïsme, contrepoids à mon individualisme, contrepoids à ma chair. Ainsi je suis heureux si je suis miséricordieux. Et vous l'avez compris, il n'y a là aucune raison, aucun motif de gloire personnelle. Car qu'as-tu que tu n'aies reçu, dit l'Écriture. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Les miséricordieux de notre béatitude sont donc premièrement les hommes et les femmes qui ont reçu la miséricorde de Dieu. Mais concrètement, c'est quoi être miséricordieux? Être miséricordieux, c'est considérer l'autre qui est devant moi, ou à mon côté, ou derrière moi, peu importe, celui qui est proche de moi, mon prochain peut-être, l'autre qui souffre, l'autre qui peut-être me fait souffrir, le considérer avec le même regard, la même bonté que Dieu. On ne parle pas ici d'un acte isolé de bonté. On parle ici d'un choix de vie qui découle d'un cœur régénéré et qui porte sur les autres, qui cherche à porter sur les autres le même regard bienveillant que Dieu a porté sur moi en Jésus-Christ. Il est donc évident que la miséricorde de notre béatitude ne peut être que désintéressée. Par nature, entendez nature pécheresse, le regard que je porte sur l'autre est souvent négatif, envieux, jaloux, plein d'animosité, de jugement, de supériorité, de comparaison. C'est un regard alimenté par les œuvres de la chair. Et toutes ces choses, en moi, font obstacle à la miséricorde. Nous l'avons vu, notre béatitude nous engage à l'imitation de Dieu, à être parfait comme notre Père Céleste est parfait, à être miséricordieux comme lui, en somme, à aimer comme il aime. Oui, ce qui est déterminant, c'est l'amour. C'est le choix d'aimer. Je peux faire beaucoup de choses pour les autres. Je peux même, dit Paul aux Corinthiens, distribuer tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Je peux même donner mon corps en sacrifice. Il dit, je peux même brûler mon corps. Mais si je n'ai pas l'amour, dit-il, cela ne me sert à rien. Oui, ce qui est déterminant, c'est l'amour. L'amour, continue l'apôtre Paul dans ce chapitre 13 des Corinthiens, qui est patient. Toutes ces choses disent quelque chose de la miséricorde qui est serviable, qui n'est pas envieux, qui ne se vante pas, qui ne s'enfle pas d'orgueil, qui ne fait rien de malhonnête, qui ne cherche pas son intérêt, qui ne s'irrite pas, qui ne médite pas le mal, qui ne se réjouit pas de l'injustice, mais qui se réjouit de la vérité, qui pardonne tout, qui croit tout, qui espère tout, qui supporte tout. Autrement dit, qui est miséricordieux. Nous venons de souligner l'importance de l'amour, mais concrètement, comment se manifeste la miséricorde? Elle peut se manifester premièrement par l'aide concrète envers celui ou celle qui est dans le besoin. Être miséricordieux, c'est tendre la main à ceux qui en ont besoin, tendre la main à ceux qui souffrent, à ceux qui ont peut-être des besoins matériels, des besoins émotionnels, des besoins spirituels. Cela peut inclure bien sûr des actes de charité, comme donner à ceux qui sont dans la pauvreté, mais aussi visiter les malades, offrir une écoute attentive, un soutien moral, prier avec quelqu'un, et j'en passe. Nous allons y revenir dans quelques instants, mais je le mentionne déjà ici, Jésus nous offre un bel exemple de cette aide miséricordieuse avec cette parabole tellement connue du bon samaritain et qui a quand même toujours tellement de choses à nous dire et à nous redire. Comment concrètement se manifeste la miséricorde? Elle peut se manifester deuxièmement par un comportement bienveillant et patient au lieu du jugement envers celles et ceux qui nous entourent, même et surtout quand ils nous agacent, même et surtout quand ils nous déçoivent, même et surtout quand ils mettent notre patience à rude épreuve. Alors bien sûr, cela implique certaines choses, cela implique d'être compréhensif face aux imperfections humaines, de choisir de faire la part des choses, d'essayer de voir au-delà des apparences, de choisir de regarder le monde, mon prochain autrement, avec compassion, d'être attentif aux autres, à leurs souffrances, et de chercher à y répondre avec bienveillance. Et notez bien que je n'ai pas dit que c'était facile, parce que ça ne l'est pas. Comment concrètement se manifeste la miséricorde? Elle peut se manifester troisièmement par le pardon. Par le pardon envers le coupable qui se repent. C'est peut-être cette manifestation la plus difficile, qui est la plus difficile, certainement la plus exigeante. Bien sûr, ce qui est difficile ici, ce n'est pas le pardon des petites blessures, mais le pardon des blessures profondes. Oui, être miséricordieux, miséricordieux, c'est pardonner à celui ou à celle qui se repent parce que c'est ainsi que Dieu qui est miséricordieux a agi envers nous par Jésus-Christ. Et Jésus nous offre un bel exemple de ce pardon miséricordieux dans une autre parabole, la parabole du serviteur impitoyable. Et au début de la parabole, le maître qui pardonne le fait parce qu'il est ému, touché de compassion. C'est la miséricorde qui le pousse à pardonner. Verset 26, le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, prends patience envers moi et je te paierai tout. » Touché de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, lui remit la dette. Et puis à la fin de la parabole, c'est le manque de compassion, de miséricorde, de pitié que le maître reproche à ce même serviteur. Verset 32, alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Oui, c'est un chemin exigeant que celui du pardon. Mais c'est le chemin sur lequel le Seigneur engage chacun de ses enfants. Avec en particulier cette parabole qui nous rappelle que quelle que soit l'offense qui nous a été faite, elle est toujours sans commune mesure avec celle de notre péché que Dieu nous a pardonné. Et parce que nous avons été pardonnés, nous devons pardonner à notre tour. Et notez bien ici aussi que je n'ai toujours pas dit que c'était facile. Oui, être miséricordieux, c'est agir. Jésus, dans les évangiles, était souvent ému de compassion, touché de compassion. Et cela le poussait à agir, cela le poussait à s'arrêter là où il y avait des besoins. Cela le poussait à écouter, à aider, à guérir, à sauver. Être touché par la détresse de quelqu'un, c'est bien, c'est important. Et il faut veiller à ce que nos blindages protecteurs soient quand même un tout petit peu perméables par moment. Il faut accepter de se laisser toucher, de se laisser parfois même ébranler. Mais si ces émotions-là ne me transforment pas, ne me poussent pas à l'action, alors c'est stérile. Ça ne sert à rien, ou en tout cas pas grand-chose. La miséricorde, la vraie, est agissante. Elle est agissante comme nous le montre si bien la parabole du bon samaritain. Ah, ça faisait longtemps que la télécommande... Comme nous montre donc si bien la parabole du bon samaritain et la réponse à la question de Jésus à la fin de la parabole, verset 36, « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ?» Et la réponse, c'est « Celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Et Jésus lui dit « Va et toi fais de même. » C'est celui qui a exercé la miséricorde. Va et toi fais de même. La miséricorde ne peut être qu'agissante. Être miséricordieux, c'est agir. Les sentiments, les émotions, les mots, les beaux discours ne suffisent pas. Comme le dit avec tellement de justesse ce verset de 1 Jean 3 qu'on a déjà cité, et que je cite avec le verset qui précède, « Si quelqu'un a les moyens de vivre et voit son frère ou sa sœur dans le besoin, mais lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre qu'il aime Dieu ? Mes enfants, n'aimons pas seulement en parole, avec de beaux discours, faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes. » Nous n'avons pas le temps de nous attarder sur cette parabole du bon samaritain, mais je vais juste les mentionner, tirer très succinctement quatre caractéristiques de la miséricorde. Qu'est-ce qui caractérise la miséricorde du bon samaritain ? Elle est bien évidemment tout d'abord agissante et il ne peut pas en être autrement, nous l'avons dit. Le bon samaritain ne s'est pas contenté de dire à l'homme blessé des paroles réconfortantes, une petite tape sur l'épaule et puis bon courage. De lui dire qu'il allait prier pour lui, ce qui reste une très bonne chose à faire, bien évidemment. Mais il a pris l'initiative, il a pris le temps de s'arrêter, il l'a soigné, il l'a conduit à l'hôtellerie, il a pris soin de lui sur le moment et même après. Qu'est-ce qui caractérise la miséricorde du bon samaritain ? Elle est deuxièmement généreuse. Le samaritain ne s'est pas contenté du strict minimum. On peut même dire qu'il a fait vraiment le mille supplémentaire. Et elle est d'autant plus généreuse qu'on se souvient que les Juifs et les Samaritains n'étaient pas en très bons termes. Qu'est-ce qui caractérise la miséricorde du bon Samaritain ? Elle est troisièmement désintéressée. Le Samaritain n'avait rien à gagner à prendre soin de ce Juif. Il n'avait rien à gagner dans cette affaire. Et puis, clairement, il n'attendait rien en retour, aucune récompense, aucune reconnaissance. Qu'est-ce qui caractérise la miséricorde du bon samaritain ? Elle est quatrièmement inconditionnelle. Le samaritain aurait pu trouver toutes sortes de limites à son aide. Ah ben je suis samaritain, il est juif. Les samaritains et les juifs ne se parlent pas. Comme l'ont fait à l'évidence le sacrificateur et le lévite qui ne se sont pas arrêtés. Ils avaient certainement leurs raisons, leurs limites. L'aide du samaritain a dépassé toutes les barrières, toutes les frontières. Ethnique, religieuse, sociale. C'est une miséricorde ouverte à tous, sans distinction de race, de culture, de croyance. Une miséricorde sans condition. Oui, la miséricorde du bon samaritain, je crois qu'elle mérite, même si nous connaissons cette histoire par cœur, que nous la méditions, que nous méditions sa miséricorde, que nous nous en inspirions parce qu'elle est un modèle d'amour, un modèle de miséricorde agissante, généreuse, désintéressée et inconditionnelle. Le type de miséricorde, de compassion que Dieu désire trouver dans notre vie, le type de miséricorde que Dieu a pour nous. Il est temps de nouer la gerbe, de conclure. Et nous disons quelques mots ici sur la fin de notre béatitude, la deuxième partie, qui promet la miséricorde au miséricordieux, pour ensuite dire quelques mots de conclusion. Alors, de quoi s'agit-il ici dans cette deuxième partie ? Car ils obtiendront miséricorde. Est-ce que ça veut dire que quelque part, nous méritons la miséricorde de Dieu à cause de notre miséricorde ? Ou que nous méritons son pardon parce que nous avons pardonné ? Est-ce que j'obtiendrai miséricorde si je ne suis pas miséricordieux ? En fait, comme pour la réciprocité du pardon de Dieu et notre pardon dans le Notre Père, par exemple, il faut tout d'abord rappeler ici que c'est l'action de Dieu qui est toujours première. C'est sa miséricorde qui nous touche avant que nous puissions exercer à notre tour la miséricorde. C'est l'accueil de la grâce de Dieu dans notre vie qui nous fait entrer dans un parcours semblable. Ceci dit, il faut dire ensuite qu'il y a effectivement un lien entre notre façon de traiter autrui et la manière dont Dieu nous traitera. Un lien que l'on retrouve dans plusieurs passages, je n'ai pas le temps de les aborder, mais j'ai les références si vous voulez. Un lien qui existe aussi dans la parabole du serviteur impitoyable que nous avons déjà évoqué. Ainsi, je ne peux pas bénéficier de la miséricorde ou du pardon de Dieu sans me repentir. Et je ne peux pas prétendre me repentir sans manifester la miséricorde à l'égard du péché des autres. En fait, écrit John Stott, je vous mets la citation, voilà, qu'on change les piles de cette télécommande. Rien ne nous amène à pardonner sinon l'assurance que Dieu pardonne. Comme Jésus l'a montré dans la parabole du serviteur impitoyable, pardonner et être pardonné, obtenir miséricorde et être miséricordieux sont deux facettes indissociables d'une même réalité. C'est pourquoi dans cette logique, dans ce chemin initié par Dieu lui-même, j'obtiendrai miséricorde si je suis miséricordieux. J'obtiendrai miséricorde car Dieu a fait de moi un miséricordieux. Qui doit prendre conscience de cela et qui doit agir en conséquence. Notre miséricorde ne nous fait donc aucunement mériter celle de Dieu comme si elle était la récompense d'une bonne action de notre part. La miséricorde, notre miséricorde, n'est que le signe que nous avons accueilli celle de Dieu. Elle n'est que le signe de notre filiation au Père miséricordieux. Elle est la manifestation extérieure et visible que nous sommes entrés dans la même dynamique que celle de Dieu et que son Esprit est à l'œuvre en nous. C'est pourquoi nous obtiendrons miséricorde si nous sommes miséricordieux. Quelle belle promesse! Une promesse qui s'accomplit déjà partiellement ici-bas par la miséricorde que Dieu nous donne, que nous recevons de lui, et parfois aussi par la miséricorde que nous recevons des autres. Et puis une miséricorde que nous recevrons dans sa plénitude pour l'éternité, quand notre Père Céleste nous dira d'entrer dans la joie de sa présence. Que conclure ? Une des prières liturgiques les plus importantes de l'Église catholique romaine s'intitule Kyrie, 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 qui signifie Seigneur. Et les paroles qui se répètent dans cette prière, que vous avez certainement déjà entendu chanter, sont Kyrie eleison, qui se traduit par Seigneur, aie pitié. Seigneur, prends pitié. On peut aussi traduire comme ça. Et finalement, est-ce que ce n'est pas là le plus important ? Oui, ça l'est, puisque notre miséricorde découle de la sienne. C'est pourquoi nous voulons aussi dire, Seigneur, aie pitié. Aie pitié de ma faiblesse. Aie pitié de mes inconséquences. Aie pitié de mes arrogances, de mes suffisances. Aie pitié de mes tiédeurs. Aie pitié de mon cœur si dur, de mes raisonnements parfois si obscurs. Aie pitié de tout ce qui m'éloigne de toi, qui cherche à m'éloigner de toi. Aie pitié, car si mon esprit est bien disposé, ma chair est faible. Aie pitié pour que malgré tout cela que tu sais parfaitement, parce que tu me connais parfaitement, et parce que tu m'aimes en sachant tout cela. Aie pitié pour que malgré tout cela, nous puissions aimer comme tu nous aimes. Nous puissions agir avec compassion comme tu le fais pour nous. Oui, comme le dit David au psaume 51, comme le dit le publicain dans sa prière, comme le dit la femme cananéenne dans les évangiles, comme le disent les deux aveugles de Jéricho, ou comme le dit le pauvre Lazare dans la parabole, « Seigneur, aie pitié !»« Seigneur, aie pitié !»« Aie pitié de nous et relève-nous pour que nous puissions continuer à apprendre de toi, à marcher à ta suite, à vivre de toi, à te ressembler, à exercer la miséricorde que nous avons reçue de toi. Amen.